BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Karine Dany.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est BFM Patrimoine qui vous ouvre ses portes et vous accueille pour 2 heures d'expertise dans le monde de vos placements. À la une, le ralentissement de la cadence de la hausse des taux dans le consensus des financiers. On entrevoit peut-être le fameux point pivot. La bourse voit en tout cas dans la forte dégradation de l'activité économique aux États-Unis une lueur d'espoir. Bientôt, c'est le mot à retenir dans le compte-rendu des minutes de la Fed hier soir avec un mois de décembre qui s'oriente vers un possible resserrement et relèvement beaucoup plus faible de 50 points de base. Du coup, un Wall Street hier en fermeture à la hausse et aujourd'hui une journée close pour cause de Thanksgiving. Mais pas de grands mouvements à attendre sur les marchés parisiens avec sans doute très peu de volume à échanger. Le marché semble plus que rassuré. Alors quel impact sur les indices, quel impact sur vos placements? C'est tout l'enjeu de ces 2 heures. Des réponses avec nos experts. On va tout de suite partir du côté de la tour Euronext pour avoir des premiers éléments de réponse avec Antoine Larigauderie en duplex pour prendre le pouls de ces marchés et leur réaction face à ces fameuses minutes de la Fed plutôt encourageantes. On est sur une sorte de lame de fond, Antoine, pas vraiment de volatilité.
Oui, exactement. On a des marchés plutôt calmes et vous l'avez dit, c'est Thanksgiving. Donc, on va être en déficit de volume, va pas y avoir beaucoup de dynamisme. Cela dit, on était sur des signaux de préouverture vraiment très, très, très inégaux. On était sur des points d'équilibre. Et puis, brusquement, on s'est mis à grimper et dépasser les 6700 points. On y est encore, là. 6714. On continue à forcir avec une hausse assez consistante de 0,55%. Alors, normal qu'on ait droit à ces petites poussées haussières dans des marchés sans volume. Et on commence à dépasser à nouveau sensiblement des volumes, des niveaux qui nous ramènent à fin mars. Donc, on est sur des points assez décisifs. Hein. Et à noter notamment le DAX à Francfort qui prend 0,85%. Très bonne orientation aussi du marché allemand. Et puis, l'Eurostock 50 qui gagne 0,57%. Donc, effectivement, le marché est rassuré et a mis un petit peu de temps à décortiquer les nouvelles en provenance de la Fed, du compte-rendu de la dernière décision de politique monétaire, du fait que la Fed est en train d'entériner le fait qu'il faut sans doute ralentir la cadence du processus de normalisation monétaire face à une conjoncture économique qui faiblit, une inflation qui commence à faiblir elle aussi. Donc tout ça, ça commence à dessiner lentement et vous en avez parlé, le point pivot. Maintenant, à noter que ça a finalement, paradoxalement, beaucoup plus d'effet sur l'Europe, étant donné que la détente obligataire qui prévaut ce matin est assez violente. Si on regarde bien les échéances 10 ans, on est à 2,3% désormais sur la dette française. On était encore à 2,5% il y a quelques jours. Du côté de la dette allemande aussi, 1,84% contre 2% il y a quelques jours. Alors que du côté américain, bon, c'est bien détendu hier. On est sur des plus bas de 2 mois, mais la tendance est un petit peu moins élevée. Donc les écarts de taux continuent à se creuser. C'est profitable à l'euro-dollar qui est remonté au-delà d'un 0,4%. Et ça instille une tendance finalement assez positive sur les marchés. La plus forte hausse du CAC 40, elle est pour Unibail Rodamco-Westfield qui prend 3,3% à 53,15. Derrière, on a un beau redressement pour Téléperformance qui prend 2,25 à 214 euros. Eurofin Scientifique plus 1,97 à 68,26 €. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour Elior qui gagne quasiment 10%. 9,7% de hausse, on est à 2,83 €. Rumeurs de marché, informations officieuses autour d'un possible rapprochement avec De Richbourg, son actionnaire. Et ça pourrait occasionner des mouvements de capital. À noter Atos qui avance de 4,6% à 11,12 €, Solution 30 plus 3,81 à 1,91 €, et on a là l'essentiel des hausses sur le SBF 120. À la baisse, à noter Thales qui recule de 0,45% sur le CAC 40, plus forte baisse à 121,20 €, Carrefour moins 0,2 à 16,37 €, Kering moins 0,22 à 544,90 €. Les plus fortes baisses du SBF 120, c'est Soitec moins 1,21 à 159 €, puis Rémy Cointreau, les marchés un petit peu déçus par les chiffres trimestriels du groupe, le titre perd 0,9%, 161,80 €. Le CAC, plus 0,5, on est à 6711 points. Du côté de l'euro-dollar, mais on reste légèrement au-dessus d'un 0,4, 1,04, 18. Karine.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
Il est 11h08, on va se concentrer sur vos placements avec notre brique Pépite et Pipo. Notre guide ce matin dans la côte parisienne, c'est Robin Leclerc, analyste financier associé chez ID Midcap. Bonjour Romain.
Bonjour.
Alors Robin, vous avez choisi de sélectionner le dossier Atem. On est dans tout ce qui est équipement et logiciel de compression. Est-ce qu'on peut tout d'abord revenir un petit peu sur le secteur ?
Oui, alors Atem, c'est une société qui a été créée en 1991. Et comme vous l'avez dit, elle conçoit et commercialise des équipements logiciels de compression, décompression vidéo. Alors, pour être plus clair, ces logiciels, ça permet simplement de transférer le flux entre le moment où il est enregistré jusqu'à nos écrans. Donc, entre-temps, il y a différentes opérations de compression, décompression entre différents serveurs, que ça soit chez le producteur, chez le diffuseur, et puis après, pour arriver sur nos écrans. Donc, comme vous l'avez compris, ces clients, c'est essentiellement les grandes chaînes de télévision, les fournisseurs de contenu, et maintenant les OTT, donc c'est-à-dire les acteurs comme Netflix, Apple TV, Disney+, il y en a une multitude et à travers le monde. Donc, l'intérêt du dossier, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte demande, puisque notamment les OTT sont en plein essor. Et bon, il y a beaucoup d'études sur le segment, mais globalement, elles s'accordent tout à dire que le marché va doubler d'ici 5 à 8 ans. Donc on voit qu'il y a une demande très forte, tout simplement pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sont engorgés. Et ce qu'il faut, c'est arriver à, tout en conservant, voire en améliorant la qualité de diffusion de contenu pour nous, les utilisateurs, eux, il faut qu'ils arrivent à piloter donc l'utilisation des réseaux, les désengorger, parce que il y a des vrais sujets derrière ça d'économie de coûts et de consommation énergétique. Donc c'est à ça que contribuent les solutions développées par le groupe. Donc ça, évidemment, c'est la vue d'ensemble. Donc ça, c'est vraiment très porteur sur le moyen terme. Bon, mais quand on regarde le cours ces dernières semaines, il a eu tendance à baisser. Il a baissé pourquoi ? Parce que le groupe a publié un troisième trimestre un peu décevant puisqu'il était en baisse de 6%. Oui. Il faut quand même relativiser parce que cette baisse d'activité du troisième trimestre fait suite quand même à un premier semestre exceptionnel en croissance de 40%. Et donc cette baisse, il faut quand même un peu la minorer. Et surtout, faut voir que c'est plutôt lié à des problématiques internes d'approvisionnement, décalage de signature. En fait, quand on regarde les autres acteurs du secteur, on voit que dans globalement, ils ont fait des bonnes performances. Donc, ça veut dire que c'est des problématiques qui peuvent se régler pour Atem. Et surtout, c'est fréquent que le groupe enregistre un trimestre un peu décevant dans l'année, mais il est capable de rattraper sur les autres trimestres. Alors, d'ailleurs, il a confirmé ses prévisions.
Votre conviction, hein, Robin, justement, sur le titre, c'est une option d'achat avec un objectif de cours à 14,50 euros, c'est bien ça ?
Exactement.
Pourquoi justement ?
On est très confiant, d'une part parce que le marché, la demande est là, et d'autre part parce que la valorisation du groupe est aujourd'hui un peu plus d'une fois son chiffre d'affaires, ce qui est très en deçà des éditeurs de logiciels qui affichent des croissances à deux chiffres. Le groupe cette année a confirmé ses prévisions, même si elle a reconnu que ça allait être un peu difficile, mais on doit quand même s'attendre à une croissance d'au moins 15-20% publiée, un chiffre d'affaires qui doit s'approcher des 100 millions d'euros, et il y a un nouveau plan qui doit être présenté début janvier, ce qui doit permettre normalement de tirer le news flow, en tout cas de donner plus de perspectives et à tout le monde de pouvoir se projeter dans l'avenir sereinement.
Merci Robin Leclerc. Je rappelle que vous êtes analyste financier associé chez IDMidCap. Pardon. Merci pour cette opinion d'achat avec un objectif de cours à 14,50 €.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Et notre invité aujourd'hui pour le point macro, c'est Marc Toiti, économiste et président du cabinet ACDFI. Bonjour Marc.
Vous êtes là ?
Bonjour. Allô ? Marc. Oui,
on bonjour
est là.
Karine, bonjour à tous, tout va bien ?
Bonjour, tout va bien. Bon. Alors on va voir justement, on va parler de cette ouverture dans le vert ce matin avec un CAC au plus haut depuis fin mars, avec des indices PMI qui se sont dégradés, mais en même temps une consommation qui elle reste solide. Une Fed qui va aller semblablement vers les 50 points de base en décembre, mais on sent qu'il y a un vrai débat en interne, notamment en termes de discours avec les différents interlocuteurs. Quel est votre sentiment ?
Oui, alors clairement, je l'avais déjà annoncé à plusieurs reprises, la Réserve fédérale américaine a quand même pris le taureau par les cornes à partir du début 2022. Il y avait déjà un petit peu de retard, mais quand même, elle a réagi assez rapidement. Et donc maintenant, ça y est, elle a fait le job, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle a augmenté les taux d'intérêt. On est à 4% aujourd'hui, ce taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qu'on appelle le taux objectif des fonds fédéraux. Et donc, évidemment, on voit que la récession est là, que l'inflation commence à baisser. Donc, ça ne sert à rien d'aller trop loin dans la remontée des taux d'intérêt. Donc, c'est ce que j'annonce depuis quelques temps. Je pense que 4,5% de taux d'intérêt, donc encore 50 points de base de hausse, ça suffit, je pense, pour limiter l'inflation, même si, attention, faut pas non plus s'emballer. Si le dollar baisse, évidemment, ça va faire l'inflation importée. Donc, l'inflation pourrait quand même rester sur des niveaux élevés. Donc, c'est pourquoi la Réserve fédérale doit encore remonter le taux d'intérêt. Mais c'est vrai que les marchés ont regardé ça d'un point de vue positif. Ils se sont dit, bah, c'est génial, ça y est, on va moins augmenter le taux d'intérêt. Tant mieux. Mais ce qu'ils oublient, c'est l'essentiel. C'est que valorisent les marchés boursiers, normalement, hein, ils valorisent des profits, des dividendes. Donc, mais d'où viennent les dividendes? De la croissance. Or là, on a eu des chiffres hier assez incroyables aux États-Unis, assez catastrophiques, qui montrent que la récession est en train de revenir. Je vous rappelle que on a déjà eu une récession sur le premier semestre aux États-Unis, un petit rebond du PIB au troisième trimestre, et là, les chiffres des directeurs d'achat sont catastrophiques. Dans les services, dans l'industrie, dans la construction, on a un effondrement de l'activité. Donc la récession est là et les marchés s'emballent. Vous voyez, donc c'est un petit peu le paradoxe, c'est-à-dire que les marchés sont rassurés par le fait que la Réserve fédérale américaine va arrêter d'augmenter trop fortement les taux d'intérêt, ok, mais elle oublie que l'important c'est qu'il n'y a pas de croissance, qu'on est dans une phase de récession et donc les profits de 2023 vont pas être au rendez-vous. Donc c'est pourquoi on a un mouvement de rebond technique un petit peu des marchés, mais très rapidement on va se rendre compte que les résultats des entreprises ne sont pas à la hauteur des anticipations. Donc c'est un petit peu le paradoxe. On est content, entre guillemets, les marchés sont contents parce que la Fed arrête de, enfin, va moins remonter les taux d'intérêt, mais ils oublient l'essentiel, c'est que la récession, malheureusement, est en train de s'installer aux États-Unis et même dans le monde. Hein. On va en reparler, il y a des chiffres ce matin encore au Japon qui sont sortis, qui montrent qu'il y a la récession, la Chine également repart en récession, la zone euro également. Donc bon, c'est pas joli, joli tout ça d'un point de vue de l'économie, mais c'est vrai que pour les marchés, c'était les taux d'intérêt qui les inquiétaient. Donc là, aujourd'hui, ça se calme un petit peu, mais la récession est là.
Marc, très très rapidement, qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine? J'imagine bien sûr l'inflation en zone euro et puis aussi les chiffres sur l'emploi aux États-Unis. Ça peut peut-être changer la donne?
Alors, c'est vrai que l'important pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis, je pense qu'on a compris que c'est un scénario de récession, mais globalement pas dramatique non plus. Par contre, la grande crainte, je pense, c'est quand même la zone euro, où nous, on est toujours sur une inflation qui augmente, elle va encore augmenter dans les prochains mois, et alors que la récession est en train de s'installer. Donc, on a toujours à peu près 6 mois de décalage par rapport aux États-Unis. Donc, c'est ce qui fait que, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore eu les plus graves heures, entre guillemets, économiques et boursières, ce qui va arriver en fin 2022 et pour 2023. Donc oui, malheureusement, je pense que là, les marchés s'emballent un petit peu, mais ils vont vite être rattrapés par la réalité. Puis n'oublions pas, la remontée des taux d'intérêt qui sera liée à l'augmentation de la dette publique. Cette semaine, il y a quelque chose qui est passé quasiment inaperçu, qui est assez incroyable, c'est que le FMI a lancé un avertissement à la France en disant « Vous ne pouvez pas continuer à déraper sur vos déficits et votre dette publique ». Et les marchés n'ont quasiment rien vu, c'est passé inaperçu. C'est assez incroyable la force du marketing. Et si on avait eu ça il y a quelques années, je peux vous dire qu'on a eu une réaction assez grave. Mais bon, voilà. Si aujourd'hui, l'important, les marchés ne voient que les bonnes nouvelles, tant mieux, bien sûr. Mais attention, le grand risque, ça reste la zone euro, ça reste l'Europe.
Marc Toiti était avec nous pour commenter ce matin le point macro. Président du cabinet ACDFI. Tout de suite, la vie IMO.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie IMO.
Olivier Landrevis, président de CAFPI, est avec nous ce matin. On va parler du marché du crédit immobilier. Alors, première question qui me vient tout de suite, c'est comment se porte-t-il ?
Bonjour Karine. Nous avons de nouveau une situation qui est très tendue sur le marché du crédit immobilier. C'est une situation très extraordinaire. On a réussi progressivement à écœurer la majorité des banques françaises du crédit immobilier en l'espace de 6 mois. Je m'explique, les coûts de refinancement des banques ont beaucoup monté depuis 6 mois du fait du resserrement monétaire de la BCE pour lutter contre l'inflation. Et la dernière fois qu'on avait des coûts de refinancement bancaire aussi élevés, on était en 2013. Les banques faisaient crédit à l'époque à 3,50 et tout fonctionnait très bien. Aujourd'hui, dans la même configuration de marché, les banques françaises ne peuvent pas faire crédit au-delà de 2,50. Pourquoi 2,50 ? Parce qu'on a un taux d'usure à 3,05. Quand vous enlevez le coût de l'assurance emprunteur, les frais, ça veut dire que pour un emprunteur de 35 ans, vous ne pouvez pas faire crédit au-delà de 2,50. Et sauf réforme possible du mode de calcul du taux d'usure, il faudra attendre le mois d'avril avant que les banques françaises puissent retrouver des niveaux de marge suffisamment corrects sur cette activité de crédit immobilier pour leur donner envie de vraiment revenir.
Mais alors, on dit aussi que c'est ce fameux taux d'usure qui a permis que les taux de crédit remontent, mais moins vite en France que dans d'autres pays.
Alors, si vous le permettez, moi, je conteste ce raisonnement pour au moins deux raisons. D'abord, on n'a pas attendu d'avoir ce problème de taux d'usure en France pour avoir les taux de crédit immobilier les plus bas d'Europe. Ça a été historiquement comme ça depuis très longtemps en France, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais parce qu'on a un marché bancaire français qui a des spécificités et qui fonctionne très bien et dans lequel le niveau de concurrence est élevé. C'est une très bonne chose. Ensuite, quand on tient ce raisonnement, on oublie un peu vite les gens qu'on a laissés au bord du chemin. Si j'en crois les chiffres de Crédit Logement, sur les trois derniers mois, la production de crédit immobilier est en baisse de 35%. C'est deux fois la violence du choc qu'on avait eu au moment du premier confinement. Et croyez-moi, ça n'est pas parce que la demande de crédit de la part des Français baisse. Emprunter à 3 ou 4 points en dessous de l'inflation, il y a encore beaucoup de Français qui aimeraient pouvoir le faire. C'est véritablement parce que les banques n'y trouvent plus leur compte et on les met dans cette situation où elles n'ont plus envie de faire du crédit. Et la situation va encore s'aggraver puisque depuis 15 jours, on voit un nouveau resserrement de la part des rares banques qui étaient encore actives. Je vous donne deux illustrations. J'aurai l'élégance de ne pas nommer les banques en question, mais on a une grande banque nationale qui annonce que jusqu'à la fin de l'année, elle ne fera plus crédit en dessous d'un revenu par foyer, d'un revenu mensuel par foyer de 5000 euros. Ça veut dire qu'on écarte 90% des foyers français qui perdent l'accès au crédit, en tout cas auprès de cette banque. Et une grande banque régionale qui nous annonce qu'elle ne prêtera plus jusqu'à la fin de l'année à des emprunteurs de plus de 28 ans. Quand on sait que le niveau d'apport personnel aujourd'hui sur un projet immobilier en moyenne est de 60 000 euros, je vous souhaite bon courage pour trouver des emprunteurs de moins de 28 ans qui ont 60 000 euros sur leur compte en banque.
Mais il n'y avait pas des projets de réforme là-dessus ? On en est où ?
Je vous invite à interroger Bruno Le Maire sur le sujet. Ce qu'on entend depuis le mois de juin, c'est qu'il y a un groupe de travail qui planche à Bercy sur le sujet. Bon, il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour l'action. Je pense qu'il y a urgence maintenant à faire des propositions sur le sujet. Et il faut bien comprendre que le sujet n'est pas la protection des marges, ni des banques, et encore moins des courtiers. Le sujet, fondamentalement, c'est le bon fonctionnement du marché du logement. Et si on regarde le tableau d'ensemble, il y a de quoi se faire peur aujourd'hui. On est en train de sortir 5 millions de logements passoires thermiques du parc locatif, parce que les investisseurs locatifs qui détiennent ces logements n'arrivent pas à obtenir l'accord des copropriétés pour faire les travaux qui permettraient de les rehausser et donc de continuer à les louer. Donc on sort des logements du parc locatif. En même temps, on a des chiffres de construction nouvelle, de construction de logements qui sont en berne, avec des prix, des coûts de construction qui ne vont faire que monter à cause du coût des matières premières. Vous ajoutez à ça la hausse des taux qui désolvabilise naturellement un certain nombre de ménages. Et par-dessus tout ça, on vient nous mettre des erreurs, ce que moi j'appelle des erreurs de pilotage réglementaire. Je pense aux normes du Haut Conseil à la stabilité financière, je pense au problème du taux d'usure. Et on ferme le crédit à ceux qui pourraient se porter acquéreurs de ces logements. Donc si en France, on ne peut plus ni être locataire parce que l'offre locative va se réduire inévitablement et qu'on ne peut plus non plus faire l'acquisition de son logement parce que les conditions d'accès au crédit n'ont jamais été aussi dures, en tout cas depuis très longtemps, on fait du logement une bombe sociale, pour reprendre un terme que j'ai entendu dans d'autres bouches.
On va justement revenir sur le sujet des banques, même si la Fed hier, on a entendu avec les minutes, c'est un peu assoupli. La BCEL, en fait, est en train de hausser justement le ton avec les banques françaises pour les pousser, bien sûr, vers un modèle où elles ne prêteraient plus qu'à des taux révisables. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Alors, j'ai lu ça dans la presse hier, effectivement. Ça m'inspire qu'il doit vraiment y avoir des gens à Francfort, à la BCE, qui s'ennuient. Qui sont dans leur modèle mathématique et qui ne s'intéressent pas à l'histoire, parce que on est en train de complètement perdre de vue ce qui est la raison d'être d'une banque. La raison d'être d'une banque, c'est d'être une centrale d'absorption des risques et de gestion des risques pour le compte du système économique au sein duquel elle travaille. Et c'est ainsi qu'une banque peut prendre des dépôts courts, de l'épargne des Français, et les transformer une partie de ces dépôts courts en crédit à long terme qui permettent de financer des projets. C'est l'essence même d'une banque, en tout cas du modèle français de banque. Et au passage, ce modèle français bancaire, il est le plus solide en Europe depuis au moins 150 ans. Donc, si demain, les banques se trouvent contraintes ou encouragées à prêter à taux révisable plutôt qu'à taux fixe, ça veut dire qu'on est en train de nous basculer dans un modèle où la banque n'est plus qu'un passe-plat entre des emprunteurs et des marchés financiers qui font ce qu'ils veulent. C'est le modèle anglo-saxon. C'est quand même incroyable de nous expliquer aujourd'hui qu'il faut basculer dans ce modèle-là, qui est précisément le modèle qui a amené à la crise de 2008. Parce que c'est un modèle qui est profondément pro-cyclique, c'est-à-dire qu'il aggrave les crises. Si le risque de taux, de remontée des taux, n'est plus pris par la banque, ça veut dire qu'il est pris par l'emprunteur. Et dans une situation comme celle qu'on traverse aujourd'hui, où les taux remontent, les taux courts remontent de façon très forte, ça veut dire que ce sont les emprunteurs, aujourd'hui, qui devraient subir cela. Les emprunteurs qui ne pourraient plus joindre les deux bouts, continuer à rembourser les banques quand les taux courts remontent, et on aggraverait ainsi la crise immobilière, comme on l'a vu dans les pays anglo-saxons. Donc je trouve ça fou qu'on vienne donner des leçons aux banques françaises en la matière. Et j'espère que dans les jours qui viennent, si ces informations sont fondées, j'espère qu'on va entendre une voix forte des dirigeants de banques en France pour défendre ce modèle qui marche très bien en France, de taux fixes les plus bas d'Europe, qu'on a toujours eu. Et j'espère aussi qu'on entendra la Banque de France, qui doit défendre le modèle qu'elle a elle-même supervisé depuis deux siècles. Et j'espère même qu'on entendra le gouvernement, parce que derrière tout ça, il y a aussi un sujet
politique,
un sujet de souveraineté économique et un sujet de protection des consommateurs, des emprunteurs français. Voilà.
Bon, on espère que les banques vont vous entendre. Merci, vous étiez avec nous ce matin, Olivier Landrevi, président de CAFPI, pour nous parler du crédit immobilier. Merci d'être venu. Dans un instant, nous allons refaire un détour sur les marchés avec nos deux traders. Et n'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez aller écouter tous nos podcasts sur notre site bfmbusiness.fr et sur nos sites partenaires. À tout de suite.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Karine Dany.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est l'heure du match des traders. L'heure de retrouver nos deux experts qui sont devant leurs écrans pour lire graphiquement les tendances qui se dessinent. Nous sommes avec Alexandre Baradez, chef de la stratégie de marché chez IG, et Jean-Louis Cussac, bien sûr, trader pour compte propre chez Perceval. On va commencer avec vous, Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Alors, on voit une ouverture dans le vert ce matin. On le sait, hein, depuis hier, on est sur un marché plutôt rassuré, très peu de volume, très peu de volatilité. Quelle lecture proposez-vous ce matin ?
Bon, effectivement, vous l'avez dit, hein, c'est une volatilité qui est quand même très faible. Hein. Sur la partie européenne et américaine, on est sur des niveaux de volatilité qui sont plus bas depuis 3 mois maintenant. On a également eu hier une petite détente des taux américains suite à des indices d'activité qui montrent un ralentissement marqué, hein, de l'économie américaine. Et du coup, les indices actions, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, choisissent pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, de regarder le côté données qui ralentissent égale Fed un peu plus souple dans son approche de la du durcissement monétaire, et c'est ce que les minutes hier de la Fed ont semblé faire ressortir. Après, moi, je suis toujours un peu prudent sur ce nouveau petit rallye, je dirais, parce qu'il y a quand même une belle phase de consolidation depuis une dizaine de jours, et là, on tente d'en sortir par le haut. Je me demande, à ce stade, ce qui est de l'ordre de la conviction en termes d'achat sur ces niveaux-là, de ce qui est de l'ordre du FOMO, hein, ce fameux Fear of Missing Out, qui consiste à rentrer dans une tendance, parce qu'on aurait raté la première partie de la tendance qui a été assez spectaculaire et qui, cette première partie de tendance, hein, en gros depuis octobre, selon moi, était justifiée. Là, la partie que nous commençons à voir depuis quelques jours me semble moins justifiée parce que l'aspect banque centrale, notamment Fed, qui probablement va ralentir la cadence des hausses de taux en décembre, c'est selon moi le scénario qui était déjà joué par le marché en octobre et en novembre. Et désormais, je pense qu'il va falloir pour l'instant, le marché ne le fait pas, donc le marché a toujours raison, donc c'est moi qui ai tort à ce stade. Mais il me semble que l'aspect macroéconomique, on voit ces datas américaines hier, des PMI, services et manufacturiers qui se contractent, c'est... il y a des signaux également un peu partout comme ça de ralentissement au niveau mondial. On voit les indices de le prix du fret, du transport mondial, etc. C'est donc le pétrole également qui baisse. Oui, tout ça est favorable à l'inflation, favorable à faire baisser les prix. Mais encore une fois, c'est déjà ça que le marché a joué en octobre et novembre. Et donc, il me semble désormais que l'aspect macro et la vigueur du ralentissement mondial va devoir être intégré aussi dans le niveau de valorisation que l'on voit actuellement par rapport à la prochaine saison de résultats. Donc, moi, pour l'instant, je reste un petit peu à l'écart. Je crains un peu le risque, ce qu'on appelle le bull trap, c'est-à-dire un marché qui repart un peu vite, mais sur des fondamentaux qui ne sont pas forcément les bons. Donc, je suis un peu prudent et je trouverais plus logique de voir un CAC revenir dans des zones plutôt vers 6004, oui, 6004, 6003, consolider un petit peu son dernier rallye, plutôt que de repartir de l'avant tout de suite, même si, ça je le rappelle, je pense que le plus dur a été vu sur le CAC 40, les 5006, 5007, touchés en septembre, novembre, et début octobre. Ça, je pense, c'est vraiment des points bas qui seront costauds, qu'on aura du mal à revoir très clairement, qui sont probablement les points bas de toute la baisse qu'on a vue. Donc, mais là, c'est est-ce qu'on repart vers les sommets à cette cadence-là? Est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on se fait un nouveau rallye de fin d'année finalement? Moi, je pense qu'on a déjà eu ce rallye de fin d'année. Donc, je reste un peu prudent pour l'instant et je méfie un peu du risque de bull trap par rapport au flux macro qui parvient au marché actuel.
Alexandre, on a l'impression que le rallye a débuté un petit peu trop tôt, surtout au mois d'octobre. Quelle attitude encourager? Quelle attitude à privilégier?
Alors, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais le rallye d'octobre, encore une fois, est apparu alors que l'ambiance était très, très morose. Mais les valorisations, il y a encore un mois et demi, étaient quand même bien plus faibles. Donc, il y avait des justifications à dire à l'époque, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs de manière assez claire. Attention au risque reward à la baisse. Les marchés ont déjà beaucoup baissé. Ils intègrent beaucoup, beaucoup de mauvaises nouvelles. Il suffirait de 2-3 éléments, indicateurs macro sur les prix, par exemple, qui détendent un peu, ou 2-3 déclarations de banquiers centraux pour que le marché reparte du gros. Heureusement, ça on l'a eu en fait, tout ceci on l'a eu. Donc là il me semble que la partie du bad data, bad news is good news, c'est tout le rallye en fait qu'on a vu octobre-novembre. Mais là les nouvelles dégradées en termes d'indice d'activité avancée arrivent maintenant. Il y a un paradoxe parce qu'on voit que les données du mois d'octobre sont encore bonnes, vente au détail, commande de biens durables, c'est solide, mais les indicateurs avancés donc sur l'activité future à court terme sont en train de se contracter et les PMI mondiaux sont contractés. Donc là il y a quelque chose qui va devoir être réconcilié seulement au niveau du marché. On sait que le marché n'est pas l'économie, ça c'est très clair, mais la fonction anticipation du marché a bien joué en octobre et novembre. Selon moi, aller plus haut maintenant, ce serait trop anticipé sur la réalité. Et c'est pour ça que je pense qu'une pause est nécessaire dans les zones de prix actuelles.
Jean-Louis Cussac, est-ce que vous avez le même sentiment chez Perceval?
Oui. Oui, mais on l'a tous ce sentiment. Les investisseurs, si vous voulez, sont noyés de recommandations de prudence. Depuis des semaines, des mois. Alors, Alexandre a repris ce que je disais il y a quelques temps, c'est-à-dire l'effet FOMO peut-être, mais moi, j'en suis même pas sûr, parce que j'ai plutôt l'impression que c'est l'effet de la contrainte, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez des indices qui montent, des acteurs de la gestion pas suffisamment investis, et du coup, à un moment donné, ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait? On peut pas laisser passer le marché, il faut aller à la pêche aux idées. » Donc, on est allé, justement, il y a quelques semaines déjà, il y a 15 jours, ça a commencé vraiment, avec des achats de valeurs secondaires. On est revenu sur Esker, on est revenu, bon, sur tout un tas de valeurs. Donc, si vous voulez, on peine, si vous voulez, à trouver des idées nouvelles. On se demande quels seront les futurs catalyseurs. Le plus important, là où on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils savent qu'on ne sait pas? Par exemple, c'est peut-être, dans l'esprit de ceux qui achètent, parce qu'il y a bien quand même des achats, c'est de se dire qu'ils vendront le jour de l'annonce du cessez-le-feu en Ukraine. Pourquoi pas? Ça peut être un objectif, et c'est pour ça que j'avais considéré à 6000 que le risque était asymétrique, c'est-à-dire qu'on avait plus de chances de voir le marché monter que baisser. Là, si vous voulez, on a gagné 1100 points, 19,4%. C'est gigantesque en 2 mois de temps. En 2 mois. On a fait ce qu'on pourrait faire en 2 ans. On l'a fait en 2 mois. Voilà. Donc les marchés, si vous voulez, pour l'instant, ne rencontrent pas de résistance lorsqu'ils progressent. Ils restent encouragés, en effet, comme l'a très bien expliqué Alexandre, par le dernier compte-rendu de la Fed, qui a renforcé, si vous voulez, un scénario d'un ralentissement, d'un prochain ralentissement, oui, et dans la hausse des taux. Et d'ailleurs, le dollar a chuté. On a clairement vu l'euro rebondir On est d'ailleurs acheteur sur l'euro-dollar, donc ça confirme l'idée que là aussi les tendances restent haussières sur les indices actions, sur l'euro-dollar. On vise toujours, si vous voulez, la même chose, c'est-à-dire un retour entre guillemets à la normale future aux États-Unis et une baisse des tensions inflationnistes. Ce sont des paris, si vous voulez, qui ont déjà été pris. Et là aussi, je suis encore d'accord. Depuis déjà un certain temps, je trouvais qu'à 6005, on avait déjà bien payé des perspectives en amélioration. Alors à 6007, encore plus. Mais en tant que trader, si vous voulez, pour l'instant, le marché n'envoie aucun signal d'arrêt. Voilà. Et même la consolidation, si vous voulez, qu'on a eue ces derniers temps avec un marché qui était plutôt stable, et se faisait légèrement à la hausse. Et surtout, quand on regardait les valeurs une par une, on voyait des améliorations constantes, valeur par valeur, secteur par secteur. Ils allaient à la pêche, à l'achat ici et là, ensuite, etc. Donc pour l'instant, on ne voit pas ce qui d'abord pourrait perturber le marché, ce qui pourrait l'amener à fortement reculer, avec en plus donc des contraintes et des positions pour beaucoup de spéculateurs qui sont extrêmement vendeuses à découvert. Et je sais qu'il y en a. IG, donc chez Alexandre, publie d'ailleurs les positions des clients qui sont vendeuses à découvert en majorité. Et ça, on retrouve cela un peu partout. Quand vous interrogez des brokers, ils vous disent « Bah oui, c'est vrai que l'ambiance est plutôt à shorter ». Et voilà. Et donc, si vous voulez, c'est une divergence très forte dans le prix du marché, entre le prix du marché et les perspectives économiques, bah, qui sont quand même pas faciles à appréhender.
Jean-Louis Cussac était avec nous ce matin de chez Perceval et Alexandre Baradez de chez IG. Jean-Louis, on vous retrouve comme d'habitude à 11h30 pour une nouvelle analyse de la salle des marchés. Et tout de suite, la polémique.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, pour la polémique, on va parler du recul du prix du pétrole, puisque le baril de référence de la mer du Nord, le Brent, est passé depuis hier sous les 85$. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle ?
C'est une très bonne nouvelle si vous faites le plein plusieurs fois par mois, parce qu'évidemment, c'est une composante du prix du carburant. On considère que 1 dollar de baisse sur le baril, ça fait 1 centime à la pompe. C'est une très bonne nouvelle aussi pour Bercy. Ça atténue un peu la douleur de la baisse de la ristourne de 30 à 10 centimes. D'ailleurs, sur la période, on n'a pas pris les 20 centimes de ristourne en moins, on a pris entre 10 et 13. C'est aussi une bonne nouvelle quand on veut faire reculer l'inflation. Le pétrole est quand même une grosse composante de l'indice des prix à la consommation. Mais fondamentalement, la raison pour laquelle le prix du pétrole baisse, c'est pas une bonne nouvelle. C'est que la demande recule, c'est que l'activité ralentit. On entend souvent dire que le pétrole, c'est les spéculateurs. Il y a de la spéculation avec le pétrole, mais le vrai juge de paix, c'est l'offre et la demande. Et pour preuve d'ailleurs, vous prenez mars-avril 2020, là où on a mis sous cloche pratiquement l'économie mondiale avec Covid et des confinements absolument incroyables, eh ben, la demande n'a pas reculé, elle s'est effondrée, et le baril est passé sous les 30 dollars à ce moment-là. C'est bien la demande et l'offre qui pilote le prix.
Mais ça fait quand même 2 semaines que le baril de pétrole recule. Dit autrement, ça signifie qu'il y a un risque de récession qui se précise ?
Ah, clairement, l'OCDE hier a revu à la baisse sa prévision de croissance, encore dans le vert, mais quand même revu à la baisse pour les États-Unis. Et puis on a eu un indice PMI pour l'Europe qui laisse supposer qu'une récession, pas très violente, mais une récession quand même modérée pour l'Europe, pourra intervenir cet hiver, en zone euro plutôt. Il y a un autre facteur, c'est que Covid repart de plus belle en Chine, que la stratégie zéro Covid fige l'économie chinoise. On parle du premier importateur de pétrole au monde et évidemment la demande chinoise recule. Et puis il y a une troisième explication toute récente. Le G7, l'Union Européenne et l'Australie sont sur le point de se mettre d'accord pour imposer un prix plafond au pétrole russe et ils sont sur l'idée d'avoir un prix au baril entre 65 et 70 dollars. Tout ça pèse effectivement sur le prix du baril. Il y a comme d'habitude Goldman Sachs qui se hasarde au jeu de la prévision sur jusqu'où va aller le prix du baril de pétrole. Alors Goldman Sachs a revu à la baisse sa prévision de 10 dollars mais tombe quand même à 100 dollars pour le baril de pétrole, le baril de Brent à la fin de l'année 2022, car ils sont visiblement convaincus chez Goldman que l'OPEP Plus ne restera pas sans réagir et qu'ils pourraient a priori décider de réduire à nouveau leur production pour essayer de conserver des prix à un niveau élevé.
Alors, Nicolas, ce risque de récession, il est bien réel ?
Ah, il est bien réel. On avait l'impression que les chaînes d'approvisionnement allaient mieux, mais là, patatras, avec Covid qui repart en Chine, et on voit ce qui se passe avec l'usine de Foxconn notamment, on se dit que ça peut revenir de plus belle, et c'est un élément de récession. Après, les prix de l'énergie, c'est vrai, ils ont un peu baissé, mais ils restent encore très élevés. Et puis, on a un autre problème sur l'énergie, c'est un problème de quantité. On voit bien qu'on a des risques de pénurie, et notamment, on se demande si on pourra passer l'intégralité de l'hiver sans difficulté. Après, on a des banques centrales quand même décidées à continuer les politiques de hausse de taux. La BCE nous l'a confirmé il y a pas plus tard que cette semaine. Des hausses de taux durablement, a dit Christine Lagarde. Les hausses de taux, ça freine l'activité, c'est un élément récessionniste. Et puis, on a une guerre que personne ne maîtrise. J'ai envie de dire qu'il y a déjà de la récession dans ce que l'on vit, puisque le choc énergétique, la crise énergétique, est estimée pour la France à 3 à 4 points de PIB, déjà, d'ores et déjà, la facture, dont l'État assume une bonne partie avec ses politiques publiques. Ça fait 100 milliards d'euros, hein, entre 80 et 100 milliards d'euros. Alors, le seul élément qu'on maîtrise dans ces paramètres de récession, c'est la politique monétaire. Et là, vous avez deux écoles qui s'affrontent dans un débat assez passionnant. La première dit « Arrêtez les hausses de taux, vous allez tout casser ». Ça fait des années, depuis Covid et maintenant avec la guerre en Ukraine, qu'on paye, qu'on dépense des fortunes pour essayer de tout sauver, tout préserver, les ménages et les entreprises. Et bien avec les politiques monétaires que vous êtes en train de mener, on aura payé pour rien parce que vous allez tout casser. Objectivement, l'argument s'entend. Et puis, vous avez ceux qui disent qu'il faut impérativement que les banques centrales respectent leur mandat, qui est de lutter contre l'inflation. Et par exemple, ceux qui défendent cette idée-là disent, regardez, vous prenez l'Europe, par exemple. Eh bien, l'Europe, elle a une inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors prix volatile de l'énergie, un peu au-dessus de 5%. Mais si vous avez 5% d'inflation sous-jacente, avec un taux de refinancement à 2%, ils disent, vous n'avez aucune chance de juguler l'inflation avec 5% de sous-jacent et un taux à 2% si vous ne montez pas les taux. Et objectivement, ben l'argument, il s'entend aussi. D'où l'affrontement dont je vous parle.
Alors, à propos justement du baril de pétrole, on entend encore beaucoup cette interrogation. Pourquoi en 2008, alors que le pétrole était au plus cher, proche des 140 dollars, les carburants étaient beaucoup moins chers qu'aujourd'hui?
C'est vrai, on avait un baril hors de prix et des carburants beaucoup moins chers. Ce qui nouait d'ailleurs un peu une théorie du complot. Ah oui, mais vous les journalistes, quand vous expliquez les prix des carburants, vous nous cachez les choses. Regardez, en 2008, ça n'avait absolument rien à voir. L'explication est toute simple, elle est moins intuitive que la théorie du complot. À cette époque-là, l'euro valait 1,60$. Plus l'euro est cher, plus le pétrole est bon marché. L'euro valait 1,60$. On était, quand j'ai regardé ce matin, à 1€ pour 1,04$ aujourd'hui. C'est toute la différence. Alors on va me dire, oh oui, mais finalement, 1,04, 1,60, c'est un écart monumental. C'est la raison pour laquelle, à cette période-là, avec un baril très très cher, on arrivait encore à avoir des litres à la pompe qui étaient en dessous d'1,50€. La donne n'est pas la même. Bon, et puis on peut imaginer aussi qu'en 2008, il y avait un petit peu moins de taxes sur les carburants. Je rappelle que les taxes sur les carburants, ça représente 60 centimes pour 1€ de carburant. Enfin, la principale explication, c'était la valeur de l'euro par rapport au dollar. Voilà. Donc, c'est pas un mensonge et une théorie du complot.
Nicolas Dose est avec nous pour la polémique sur le recul du prix du pétrole. Et tout de suite, on va plonger dans quelques idées de placement.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et j'accueille notre invité, il s'agit de Rémi Serrier. Vous êtes directeur général de PatriWine.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue. On va parler du dollar et de l'inflation à la carte des vins. Ma première question, c'est d'abord, quel est justement l'impact de la hausse du dollar et de l'inflation sur les grands vins de Bordeaux ?
Alors, c'est vrai que les incertitudes que l'on a liées à l'économie européenne et notamment sa monnaie, ça va avoir un impact directement sur les exportations liées aux États-Unis. C'est-à-dire que là, on a un dollar qui est, c'est historique, depuis 20 ans, on a un euro qui vaut 0,96 $, ce qui fait que on a une demande qui est très très importante en ce moment de la part des États-Unis. Les États-Unis achètent en ce moment en très très grande quantité.
Est-ce que vous auriez un exemple à nous donner ?
Alors, on peut citer deux exemples. On a, la semaine dernière, le week-end dernier, on a eu la 162e édition de la vente aux enchères, de la célèbre vente aux enchères des Hospices de Bonne, qui a eu lieu. Et donc, on a explosé les records, c'est-à-dire que le record de 2018, qui était d'une vente d'environ 13,9 millions d'euros, a été pulvérisé. Et là, on a atteint près de 30 millions d'euros, sans compter la célèbre pièces des présidents aux pièces de charité qui en 10 ans a explosé et est passé d'environ 230 000 euros à ce week-end dernier de 810 000 euros. Donc,
ça fait 800 euros le litre.
Exactement, ça fait à peu près 800 euros le litre. Et je peux citer un autre exemple. On a un château qu'on affectionne plus particulièrement, c'est en Margaux, c'est un grand cru classé, le château Lascombe, qui montre également l'appétence des Américains. Un célèbre homme d'affaires américain donc a racheté cette célèbre propriété pour un montant d'environ entre 300 et 400 millions d'euros, ce qui constitue également un record dans le Bordelais.
Alors, qu'est-ce que vous pensez du marché, justement, des grands crus en 2023? Et puis, la question qu'on a tous à la bouche, comment s'annonce le millésime 2022, bien sûr?
Alors, le marché du vin se comporte plutôt bien en ce moment. Si on peut faire un petit comparatif entre trois indices. Alors, on a le Livex 100 qui constitue les 100 vins les plus recherchés sur le marché secondaire. Donc, on a créé un indice. Et si on le compare au CAC 40 et au DAX, par exemple, on a une évolution sur les 5 dernières années qui est d'environ 36% sur le Livex 100, alors que le CAC 40 a augmenté de 9% et le DAX est plutôt à l'équilibre. Donc, on a vraiment un marché du vin qui se comporte plutôt bien. Et en plus, on a un millésime qui arrive, qui va être juste extraordinaire, qui va faire partie des grands millésimes qu'on a fait dernièrement. On a eu des records en termes de sécheresse et de chaleur, ce qui a favorisé la concentration au niveau des baies que l'on a pu avoir. Donc on a des vins qui vont être très concentrés, des quantités un petit peu réduites parce qu'il n'a pas beaucoup plu.
Bien sûr.
Mais par contre, on va être une qualité qui va être optimale. Et ce millésime a déjà très bonne presse.
Alors, si on veut parler justement à nos investisseurs qui nous regardent, est-ce que vous auriez des tuyaux, des propriétés dans lesquelles on peut s'orienter?
Alors, nous, on a une propriété avec qui, une propriété coup de cœur, c'est donc le château Aubailly, donc on a mis un communiqué dessus. Donc, c'est un château donc en Pessac-Léognan qui a été acheté par la famille Sanders dans les années en 1955. Donc, où ils ont apporté vraiment un nouveau souffle à cette propriété. En 98, c'est un château qui a été racheté par la famille Wilmers, mais ils ont toujours gardé la famille Sanders en gérance, ce qui a fait qu'il y a une continuité dans la conception des vins. Ça n'a pas eu d'impact. Et en 2021, ils ont inauguré un nouveau cuvier, juste exceptionnel, à la pointe de la modernité. Et c'est une propriété également qui fait partie où les vignes sur 4 hectares sont centenaires. C'est une des seules propriétés à réaliser ça. Ça fait qu'on a une qualité en termes de vin sur différents millésimes qui est extraordinaire.
Merci de nous avoir donné ces deux petites pépites, ces idées de placement. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Patrimoine, Rémi Serrier. Merci beaucoup.
Merci.
Retrouvez votre rendez-vous avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974 et à vos côtés en France depuis 2007.
Allez, on part faire un premier petit point exhaustif sur les marchés avec un CAC qui est toujours dans le vert. 6720,06, on grappille quelques points à plus 0,61%. Un CAC tiré par des valeurs, des catalyseurs tels que Téléperformance à 213,70€, plus 2,10%. Worldline 48,85 à plus 1,96%. Et bien sûr, Alstom et Thales. Thales à 121,40 qui vient de changer de couleur et qui est maintenant dans le négatif, 0,29% dans le négatif également. Nous l'avons vu, c'est le VIX Index, moins 4,42% à 20,35€. Tout de suite, on va parler vert avec
BFM Business, BFM Patrimoine sur le grill.
Sur Green Friday, à la recherche des placements verts. Demain, vendredi 25 novembre, aura lieu un événement que de nombreux consommateurs attendent, le fameux Black Friday. Un concept droit venu des États-Unis qui encourage les enseignes à proposer des prix cassés chaque année pendant 24 heures lors de ce fameux dernier vendredi du mois de novembre. Sauf que ce concept est de plus en plus décrié par les défenseurs d'un Black Friday, justement beaucoup plus vertueux. Et pour en parler ce matin, Julie Cohen-Horton. Bonjour Julie.
Bonjour Karine.
Alors Julie, de l'investissement responsable aux achats responsables, il n'y a qu'un pas, c'est bien ça ?
Exactement, hein. Disons qu'il y a un lien que les investisseurs qui nous regardent et qui nous écoutent peuvent avoir à l'esprit. Mais déjà, si vous me le permettez, Karine, j'aimerais vous parler d'un concept. Ce concept, c'est le Green Friday. Et qui mieux pour nous le présenter que l'un de ses instigateurs, Thibaut Ringot. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes l'un des membres fondateurs du collectif Green Friday. Vous êtes également le directeur général des enseignes Alter Mundi qui sont spécialisées dans la vente de produits responsables. Déjà pour commencer, quand on parle du Green Friday, de quoi parle-t-on précisément ?
Bonjour, alors le Green Friday, c'est en effet un événement de sensibilisation à la consommation responsable et qui vise aussi à lutter contre la surconsommation générée par le Black Friday. Donc comme vous le disiez à l'instant, c'est un événement qui est organisé le dernier vendredi du mois de novembre, le jour du Black Friday, et qui va vraiment essayer de faire comprendre aux consommateurs qu'il faut consommer de manière différente et ne pas céder à la folie de la surconsommation. C'est un événement qui est organisé par différentes structures de l'économie sociale et solidaire, comme Alter Mundi, comme le Réseau Envie, comme DreamAct, Emmaüs, le Réfère, et tous ces acteurs se réunissent et se mobilisent pour faire une journée de sensibilisation à la consommation responsable lors du Green Friday.
D'accord. Et alors, vous expliquez avoir pour ambition de lutter contre une consommation, je cite, kamikaze. Qu'est-ce que vous entendez concrètement par là et pourquoi vous avez pris le parti de créer ce collectif ?
Alors, je peux vous citer quelques chiffres. Je crois qu'on aime bien les chiffres ici.
On aime bien, oui.
90% des Français estiment qu'on les incite à consommer et à surconsommer. 88% des Français changent de téléphone alors qu'il fonctionne encore. On achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans alors qu'ils durent deux fois moins longtemps. Et il faut 10 000 litres d'eau pour produire un jean. Voilà, donc ces quelques chiffres sont quand même assez marquants. Et à côté de ça, le jour du Black Friday est le jour où on consomme le plus dans le monde. L'année dernière, c'était 748 millions d'euros générés en France par le Black Friday. Voilà, donc quand on parle de consommation kamikaze et quand on voit ces chiffres, on se dit mais quel est l'impact de cette surconsommation et de cette surproduction liée au Black Friday? Et c'est vraiment ce qu'on veut essayer de faire comprendre aux consommateurs, c'est que quand on produit tous ces produits, quel est l'impact sur le réchauffement climatique, quel est l'impact sur l'épuisement des ressources, quel est l'impact sur les conditions de travail? Voilà, ça c'est quand même assez dramatique. Typiquement en Chine, en France on parle de Black Friday, de Black Friday Week. En Chine, on parle de saison noire, la saison noire qui va produire dans des conditions très effrénées toute cette production. Oui.
D'accord. Et alors, je crois que vous ne parlez pas uniquement d'enseignes, mais de structures. Aujourd'hui, combien de structures ont rejoint le mouvement ? Et puis, quels sont surtout les engagements que les entreprises qui adhèrent doivent remplir pour pouvoir intégrer le collectif ?
Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, le Green Friday, c'est 500 structures en France, composées d'entreprises, d'associations. Et l'idée de ces structures, c'est vraiment d'agir différemment. Alors, la première chose qu'on va leur demander, c'est de ne pas faire de remise le jour du Black Friday, donc le jour du Green Friday. Pas de remise dans les structures, mais par contre, on va reverser 10% de notre chiffre d'affaires à des associations de sensibilisation à la consommation responsable. Donc Alter Mundi, par exemple, va reverser 10% de son chiffre d'affaires à HOP, qui est une association de lutte contre l'obsolescence programmée. La deuxième chose, c'est que plutôt que d'organiser des remises, on va demander aux structures d'organiser des événements de sensibilisation à la consommation responsable. Donc demain, partout en France et en Belgique, vous allez pouvoir assister à des événements de sensibilisation à la mode éthique, de sensibilisation au zéro déchet, de réparation, des ateliers de réparation. Par exemple, chez Alter Mundi Rue de Rennes, on organise avec le label Slow We Are un atelier de sensibilisation à la mode éthique. On va essayer de comprendre comment est produit un vêtement. Voilà. Et le dernier point, c'est qu'on demande un engagement sincère. C'est-à-dire que le Green Friday, ce n'est pas qu'une journée dans l'année, c'est vraiment un événement qui va à l'encontre d'une démarche de greenwashing et on veut que les acteurs soient engagés toute l'année. Engagés en faveur d'un commerce responsable, engagés à réparer, à réutiliser, à la seconde main, à l'insertion. Voilà, c'est vraiment un engagement fort toute l'année.
D'accord, mais tout ça, ce sont des engagements très, très vertueux, sauf qu'on est quand même dans une période compliquée de perte du pouvoir d'achat. Quelle réponse vous faites aux consommateurs dont les revenus peuvent se révéler peut-être un petit peu plus mesurés, mais qui tablent justement sur le Black Friday pour faire quelques bonnes affaires ou pour justement anticiper les cadeaux de Noël ?
Alors c'est vrai que c'est une question qu'on pose beaucoup. Moi, la réponse que j'ai envie de donner, c'est quel est le coût et quel est l'impact d'un t-shirt qu'on achète à 5 euros dans une enseigne de fast fashion qui va durer que quelques mois, qui est quasiment jetable. Est-ce que face à ça, il vaut mieux pas acheter un t-shirt de qualité qui va durer beaucoup plus longtemps, qui a été fabriqué en France à partir de coton bio? Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion à mener sur cet achat. Je pense qu'il faut vraiment que le consommateur reprenne un peu le sens de son achat et réfléchisse un peu, peut-être à consommer moins, mais à consommer mieux. Consommer mieux, ça veut dire acheter commerce responsable, regarder un peu la traçabilité du produit qu'on va acheter, mais ça peut être aussi réparer, ça peut être aussi acheter de seconde main, et enfin ça peut être aussi peut-être ne pas acheter si on n'a pas vraiment besoin. Et je pense que là on gagne du pouvoir d'achat quand on évite d'acheter des produits qui ne sont pas vraiment nécessaires. Globalement, au Green Friday, on veut vraiment que le consommateur reprenne le pouvoir de son achat.
Merci beaucoup Thibault. Alors bon, Julie, on a bien compris l'intérêt pour les consommateurs d'avoir une approche plus responsable lors de ce fameux Black Friday, mais on est quand même dans BFM Patrimoine. Alors en quoi cela revêt-il un intérêt pour les investisseurs?
Alors bon, effectivement Karine, du consommateur à l'investisseur désireux de verdir son portefeuille, il n'y a qu'un pas, et je dirais même que pour pouvoir consommer vertueux, il faut d'abord pouvoir avant tout performer et dégager des rendements. Alors, on l'a dit, par les temps qui courent, il se révèle essentiel de pouvoir miser sur autre chose que le pouvoir d'achat pour pouvoir dépenser de façon plus raisonnée. Et donc, l'une des options qui s'offre à vous, c'est celle qui consiste à miser dans des entreprises qui œuvrent pour un retail plus responsable. C'est le cas des 500 et quelques structures qui ont rejoint le mouvement Green Friday et qui répondent donc à des critères d'impact écologique et éthique.
D'autant, Julie, on le sait, que dans l'univers des placements, le fait de miser sur des supports d'investissement labellisés et ou qui prennent en compte les fameux critères ESG, ça revêt un intérêt de taille pour les investisseurs.
Absolument, ces critères extra-financiers, ils attestent finalement d'une certaine stabilité de l'entreprise sur laquelle vous envisagez d'investir. Dans la durée, les placements responsables, ils sont souvent plus rentables que leurs pendants traditionnels, parce qu'ils se montrent justement plus résilients, et notamment en période volatile.
Alors concrètement, si l'on veut miser sur des entreprises membres du collectif Green Friday pour combiner justement un investissement responsable, performance et consommation vertueuse, Julie, comment on fait ?
Eh bien, on investit dans le non-coté, autrement dit dans le private equity. C'est les entreprises qui suivent donc le mouvement du Green Friday. Elles sont pour la plupart c'est des petites structures de petite taille, des ETI. Elles ne sont donc pas cotées en bourse, ce qui signifie que si vous voulez miser dessus, il faut soit souscrire directement au capital de celle-ci, c'est ce qu'on appelle le capital investissement, soit acheter des parts de fonds en direct, en compte-titres ou par le biais de votre enveloppe assurance-vie, ce qui revêt pour le coup l'avantage non négligeable de pouvoir confier vos fonds à des professionnels de la gestion d'actifs.
Julie, est-ce qu'il y a des points d'attention à avoir en tête ?
Alors oui, dans le cas où vous seriez tenté d'investir directement au capital d'une entreprise, vous attendez pas, contrairement aux actions cotées, à bénéficier de la même liquidité. Pour ce qui est de l'acquisition, elle se fait principalement de gré à gré entre deux parties et elle donne souvent lieu à des négociations. Autre point d'attention, en tant qu'investisseur, il est essentiel de prendre en compte les risques de faillite des PME. C'est d'ailleurs ce qui explique l'importance du potentiel des gains et des rendements du non-coté. Puis à noter enfin que selon France Invest, sur la période donc 2007-2021, le non-coté, il a affiché des rendements moyens à hauteur de 12,2% par an contre 6,3% pour l'immobilier et 5,1%. Donc pour la bourse. Mais ce qu'il faut surtout conserver à l'esprit, c'est qu'en investissant dans une PME ou dans une ETI non cotée, au-delà du retour sur investissement d'ordre financier, il y a aussi un retour humain. Le non coté, ça permet de donner du sens à votre épargne, d'investir directement dans l'économie réelle et puis d'accompagner tout simplement la croissance d'une entreprise, sans compter que ce support, il est décorrélé des marchés. Donc bref, vous l'aurez compris, en période de Black Friday, on peut choisir de consommer moins mais mieux. Less is more, comme on dit. Puis en tant qu'investisseur, on peut aussi choisir de soutenir les structures qui font partie du collectif Green Friday. Donc demain, Karine, n'hésitez pas à pencher vos investissements et vos emplettes du côté green de votre portefeuille, histoire de faire rimer consommation, action et bonnes actions.
Merci Julie. Julie Cohen-Horton de BFM Business est accompagnée aujourd'hui de Timbo Ringo d'Altermundi. A tout de suite pour une nouvelle Celle des marchés.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.